Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous prenons la parole dans Malachie, au chapitre 3. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Donc le Seigneur dit que les paroles de ceux qui sont à lui sont dures contre lui. Et eux, ils se posent les questions, mais qu'est-ce qu'on a dit de mal? Eh bien, le Seigneur va s'expliquer. Au verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà la discussion qu'il y avait au milieu des enfants d'Israël. Les gens étaient en train de parler, mais oui, mais nous, on fait des efforts pour prier, on fait des efforts pour jeûner, on fait des efforts pour rester pur. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est les méchants qui prospèrent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est vraiment réel? Il se pose des questions et la Bible dit qu'au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel, donc les gens qui craignent Dieu, ils se parlent l'un à l'autre, mais on ne comprend pas. Mais la Bible dit l'Éternel fut attentif et il leur dit ceci, vous êtes à moi, je vous montrerai que vous êtes à moi et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez, un des problèmes de tout chrétien et de chrétien, à un certain moment, il y a toujours un conflit qui vient. C'est-à-dire, on a l'impression que ceux qui sont dans la méchanceté semblent prospérer, semblent être bien, alors que ceux qui cherchent la vérité, ceux qui servent Dieu, semblent souffrir. Et je dis, ce semble, parce que ce n'est que des apparences. La réalité, il faut s'approcher vraiment des gens, vivre avec eux pour connaître leur réalité. Mais en apparence, on se dit, mais tiens, les chrétiens semblent mal en point, mais les méchants, eux, ou les païens, ou les incrédules, les incroyants, mais ils semblent à l'aise. Ce n'est qu'une apparence. Et Dieu dit, mon peuple, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que j'ai préparé un jour où la différence sera claire entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a un deuxième conflit. Le deuxième conflit, c'est parfois entre des gens qui se prétendent chrétiens, entre parfois églises, entre pasteurs. Il y a des moments où on sait bien qu'il y a des faux et il y a des vrais. Et il y a des moments où les vrais se disent, mais Seigneur, on ne comprend pas. Ceux-là sont dans l'escroquerie, dans le mensonge. Mais comment se fait-il qu'ils semblent prospérer, le nombre de leurs membres grandisse et tout ce qu'on veut. Et Dieu dit, calmez-vous. Il y a un moment qui est préparé où on saura qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ne cherchez pas à faire votre propre justice. Il peut y avoir même parfois des différends entre hommes et femmes, entre chrétiens, très proches, des différences de position, de point de vue. Et parfois on se dit, mais Seigneur, j'ai raison, mais ma raison ne semble pas entendue. et on cherche à faire notre propre justice. Dieu dit non, 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 faites confiance, moi je ferai entendre raison à tout le monde à un certain moment, tout sera clair. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent aux chrétiens, à un certain moment, de vouloir défendre le fait qu'ils sont dans la vérité. De vouloir défendre le fait qu'ils ont raison. Et Dieu dit, calmez-vous, ne cherchez pas à vous défendre par vous-même. Il y a un temps où cela va se montrer. Seulement, ça ne se montre pas forcément en notre temps, en nous, que l'on veut. Et c'est ce qui nous choque, on se dit, mais Dieu m'a-t-il abandonné, mais pourquoi ne fait-il pas justice? Non, Dieu est un Dieu de justice. Pourquoi Dieu n'établit pas la vérité clairement? Dieu est un Dieu de vérité. Il va l'établir. Mais il a des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et quand on vit ces situations-là, on commence à rêver d'un miracle que Dieu ferait publiquement pour nous justifier, pour montrer qu'on a raison. On commence à rêver que ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font le mal, puissent avoir un accident, tomber en crise cardiaque, avoir une jambe cassée. Ainsi, ça sera clair qu'ils sont maudits, ils ne sont pas de Dieu. On commence à rêver à ce genre de choses. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous allons lire la Bible dans Proverbe 24 au verset 17. Proverbe 24. Aujourd'hui, c'est devenu la mode de se dire, mais tiens, Dieu va le frapper. Il s'est rebellé. Dieu va faire ceci. Il est dans la fausseté. Dieu va le frapper. Dieu dit, ce n'est pas ça que je vous demande de faire. Proverbe 24, 17. Parfois, on a un vrai souci d'établir la vérité, mais malheureusement, on fait des mauvais rêves. 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Voilà ce que dit la parole. Parfois, on est irrité de voir le méchant, de voir le faux chrétien, le faux pasteur, enfin, tout ce qui semble s'opposer à nous. Et nous, on se dit, je suis dans la vérité, ils sont dans la fausseté, je suis dans la vérité. Mais donc, on veut que notre vérité éclate, soit par un miracle, soit par notre prospérité matérielle, et soit par leur déchéance matérielle, leur souffrance physique, soit par le fait que Dieu sanctionne par des morts dans le camp que nous considérons comme adverses. Même parfois, c'est des chrétiens, entre guillemets, ce n'est pas bon. Dieu dit, il ne faut pas se réjouir. Même quand on apprend que la personne qui t'a persécuté a été frappée, la Bible dit qu'il ne faut pas se réjouir de ça. On n'a pas à se réjouir du fait que quelqu'un a été frappé par Dieu. On n'a pas à se réjouir du fait que quelqu'un a fait un accident, même s'il s'opposait à nous. On n'a pas à se réjouir du fait que quelqu'un a perdu son fils, même si c'est un faux. On n'a pas à se réjouir du malheur d'autrui, même si c'est des mauvais. La Bible dit, quand on a cette attitude-là, Dieu se rend compte qu'en nous, son objectif n'a pas été atteint. Il change même. Il va aider la personne qui souffre, qui était autrefois notre ennemi. Dieu dit, mais il n'a pas compris. Il ne devait pas se réjouir. Il devait prier pour ses ennemis. Là, lui, il s'est réjoui. Alors, je vais relever son ennemi pour sa honte. Et c'est ce qui se passe. Parfois, nous faisons traîner même les jugements de Dieu parce que nous n'avons pas de bon cœur qui devrait prier pour les mauvais. Nous, nous attendons à ce que Dieu frappe. Dieu ne frappera pas parce que ça va amplifier nos mauvais penchants de vouloir à tout prix que les autres soient frappés, les autres soient sanctionnés. Alors Dieu arrête, il ne touche même pas à des gens qui devaient frapper à cause de nous parce qu'on ne veut pas comprendre quel cœur il veut que nous puissions avoir. Ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. Au contraire, quand ton ennemi a des problèmes, il faut l'aider. Bien-aimé, je comprends qu'il y a un souci d'établir la vérité. Mais Dieu nous dit, c'est lui qui va établir la vérité. Ce n'est pas à nous de forcer. Est-ce que Dieu ne frappe pas? Il frappe. Est-ce que Dieu ne fait pas de miracles pour établir la vérité? Il le fait. Est-ce que Dieu ne bénit pas parfois matériellement pour établir la vérité? Il le fait. Nous lisons dans le psaume 23. David dit que tu induis ma tête et tu dresses une table autour de mes ennemis. Donc Dieu bénit parfois pour confondre nos ennemis. Mais c'est lui qui sait comment faire tout ça. Parce que le but poursuivi par Dieu, c'est toucher le cœur des gens pour les amener à la conversion, pour les amener à changer de vie. La Bible dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se repente de ses mauvaises voies et vienne au salut, à la vérité. Alors donc, il sait comment agencer, que ce soit les sanctions, que ce soit les bénédictions, que ce soit les miracles. Il sait comment agencer tout cela pour amener un cœur à se convertir et à venir à lui pour le salut. Mais nous, les humains, comment dire, empreints de vengeance, nous voulons que Dieu frappe. Il y a parfois quelqu'un qui va te faire un mauvais dépassement sur la route. Tu te prends à rêver qu'il fasse un accident pour bien comprendre qu'il ne faut pas faire ce genre de dépassement. Et ça, Dieu ne veut pas de cela. Il ne veut pas de cela. Dieu sait quel jour il prouvera à cet homme-là que le mauvais dépassement, ce n'est pas bon. Nous ne devons pas souhaiter cela. Nous devons souhaiter que cette personne comprenne que ce n'est pas bon, que Dieu lui fasse comprendre, mais pas forcément en faisant un accident. Ça, ce n'est pas notre problème. Dieu sait comment il s'y prendra. Le but de Dieu, c'est de toucher le cœur de quelqu'un et de l'amener à la conversion. Le but de Dieu, c'est convaincre les gens dans le cœur. Dieu ne cherche pas à impressionner pour impressionner, comme nous. On veut qu'il y ait quelque chose qui impressionne pour confirmer, ah oui, j'ai raison. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il poursuit. Lui, il veut que chacun dans son cœur reconnaisse, non, là j'ai tort. Dieu, une fois pour toutes, il le fera à la fin des temps, au grand jugement dernier. Là, il démontrera tout clairement devant tout le monde. Mais pour le moment, son but, c'est le cœur. Il veut que même la personne qui le refuse dans son cœur, il reconnaisse que Dieu existe. Il est vrai, mais c'est moi qui refuse. Mais Dieu parle au cœur, cœur à cœur. C'est ça qui l'intéresse. Il peut employer des choses extraordinaires, des choses visibles, mais le but visé, c'est le cœur. Nous, nous ne devons pas nous méprendre sur les méthodes de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu, il a ses méthodes, et ses méthodes visent à toucher le cœur. Nous allons y revenir. Maintenant, quel est le levier que Dieu nous donne pour prouver qu'on est dans la vérité, pour prouver qu'on est de lui? Parce que quand on parle de vérité, forcément on parle de Dieu. Donc pour prouver qu'on est dans la vérité, qu'on est de lui, parfois on est dans des familles où les gens ne croient pas en Dieu. Et parfois on est au travail, les gens ne croient pas en Dieu. Que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit entre chrétiens, que ce soit entre humains, quel est le levier que Dieu donne aux chrétiens pour montrer qu'ils sont de lui, qu'ils ont la vérité? Nous allons lire dans Matthieu 5, à partir du verset 38. Matthieu 5, la Bible dit au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Voilà le levier que Dieu nous donne. Il dit, si tu veux qu'on sache que tu es dans la vérité, si tu veux qu'on sache que tu es de moi, eh bien, manifeste l'amour. Nous, on veut la facilité. Seigneur, frappe. Seigneur, fais un miracle pour prouver que je suis de toi. Non. Dieu dit, c'est ton sacrifice qui prouvera que tu es de moi. Si tu te sacrifies pour ceux qui te haïssent, c'est là la preuve que tu es de moi. Si, alors que tu as raison, tu pries pour que Dieu parle à celui qui a tort, et tu acceptes de faire profil bas. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus perdre. Or, la Bible nous enseigne à perdre pour gagner, à mourir pour ressusciter. Et les gens ne veulent plus perdre. Alors, quand le moment où Dieu choisit pour faire profil bas, afin que lui-même il fasse profil haut à ta place, on dit non, 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 j'ai raison, je dois le démontrer, ça doit être connu, ça doit être respecté ma raison. Dieu dit, mais non, toi, aime ceux qui te font du mal. Toi, ne discute pas celui qui veut te prendre un manteau, donne-lui un deuxième. Vous voyez les commandements de Dieu, c'est excellent, c'est beau. Ne polémique pas. Il y a des moments où il te dira tais-toi alors que c'est toi qui as raison. Parce qu'il te donne une force supérieure, c'est la prière. Il te donne une force supérieure, c'est sa nature. Il dit, si vous vous comportez comme ça, vous allez me ressembler. Mais maintenant, bien aimé, imagine que tu ressembles à Dieu. Donc ça veut dire que tu es devenu comment? Tu es devenu aussi puissant comme lui. Imagine de ressembler à Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a les conséquences de bonté, de puissance, de gloire qui sont là. Mais Dieu te dit que pour accéder à cette ressemblance, c'est par l'amour. Les gens, il y en a qui font des jeûnes de 40 jours pour avoir de la puissance. Il y en a qui vont se faire imposer les mains à gauche, à droite pour avoir de la puissance. Mais Dieu dit non. Ce n'est pas mauvais ces choses-là quand c'est guidé par lui. Mais le moyen le plus sûr d'avoir la puissance, c'est en appliquant tous ces passages sur l'amour. Parce que c'est ça qui te confère la nature de Dieu. Et quand tu as la nature de Dieu, la puissance se manifeste toute seule. Parce que tu as la nature de Dieu. Vous savez, il y a un film sur Marie-Madeleine qui parle, donc c'est le film sur Jésus, mais raconté par Marie-Madeleine. Et on fait dire à cette Marie de Madeleine dans ce film-là que Jésus-Christ guérissait-il par sa puissance ou par son amour? Elle répond, c'est par les deux. L'amour produit une grande puissance. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne-là. Et Jésus nous a aimé tellement les gens que de cet amour naissait une puissance pour les guérir. Alors, tous ceux qui veulent que Dieu démontre qu'ils sont dans la vérité, il faut aimer les gens qui vous contredisent. Il faut montrer l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est être comme Jésus. Il faut faire comme lui. Il faut s'humilier. Il dit, ne résistez pas aux méchants. Donc quelqu'un qui dit, j'ai raison, tu dis, bon, comme tu veux ta raison, je te la laisse. Quelqu'un qui se moque de toi puisque tu es à l'hôpital, il dit que toi le chrétien à l'hôpital, ou bien entre chrétiens, mais oui, mais celui-là, il prêche la vérité, mais il est à l'hôpital. Tu dis, bon, j'ai perdu. C'est pas grave. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme des balayures. Voilà. Des choses qu'on balaye, comme une peau de banane. Mais attention, dans la stratégie de Dieu, il a prévu que le King Kong diabolique puisse glisser sur la peau de banane que tu es. Et c'est toi qui vas gagner. C'est ça. Nous sommes des balayures, acceptons-le. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Ne cherchons pas à tout prix à ce que Dieu fasse, selon notre logique humaine, de visibilité, d'impressionner. Non, Dieu peut le faire, mais selon sa logique. À lui, nous devons nous aimer. Vous savez, la bonté, ce n'est pas seulement faire des choses, c'est-à-dire faire du bien à l'autre. C'est pas ça seulement la bonté. Aller visiter les veuves, donc il faut faire déjà ça. C'est déjà très bien.
aimer les autres et visiter les gens seuls, visiter les gens dans les hôpitaux. Aujourd'hui, quand on parle de croissance spirituelle dans le milieu chrétien, on voit tout de suite le titre « pasteur, prophète ». On voit tout de suite l'élévation. Ah, je suis connu maintenant internationalement. Mais Dieu, l'apôtre Jacques a dit la vraie religion, c'est visiter les veuves et les orphelins. Et donc prendre soin de ces gens-là. C'est ça la vraie élévation spirituelle. La vraie élévation, c'est s'occuper des choses qui ne te rendent pas une certaine gloire. Tu le fais et il n'y a pas de gloire. Mais aujourd'hui, quand on dit élévation, monsieur, vous allez être prophète. Et il finit le culte dans la joie. Mais quand on lui dit, quand l'Esprit Saint dit, il faut visiter une veuve, ah, c'est du boulot. Et voilà. Et ça, c'est l'inverse de ce que dit la Bible. La Bible dit, la vraie élévation spirituelle, c'est l'amour. C'est s'occuper des gens qui ont des difficultés, s'occuper des orphelins. C'est ça la vraie élévation spirituelle. Et Dieu veut qu'on entre dans cela. Ça, c'est la bonté que j'appelle faire du bien. Mais il y a un autre niveau de bonté. C'est la bonté qu'on peut manifester envers les gens qui nous font du mal. Ça, c'est un autre niveau. J'appelle ça la bonté réactive. Quelle est ta réaction vis-à-vis des gens qui te font du mal? C'est ça la vraie bonté, parce que c'est ça qui démontre ta nature. Parce que ça, c'est spontané. Par contre, visiter quelqu'un, donner de la nourriture, tu peux programmer cela. Mais la réaction, peux-tu programmer une réaction? Tu ne peux pas programmer. La réaction montre ta vraie nature. Et Dieu te mettra dans des situations où tu dois réagir avec bonté. Alors il faut s'y préparer, il faut changer de logique. Comprendre que Dieu nous a créés pour lui ressembler. Souvenez-vous, il a créé Adam à sa ressemblance. Et la Bible dit, on vient de lire dans Matthieu 5, il dit, « Ainsi vous serez comme lui, parfait comme lui, qui fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. » Voilà, il veut qu'on soit des gens bons. Quelqu'un qui est bon ne sera pas bon qu'avec les bons, il sera bon avec les méchants aussi. C'est ce que Dieu veut, c'est ça qui fait la différence. Il le dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains, les voleurs aiment aussi ceux qui les aiment. » Parfois, ils sont dans des cliques de vol, de la mafia. Ils sont très attachés. Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Mais la différence avec nous, ça serait quoi? C'est qu'on aime ceux qui ne nous aiment pas. C'est qu'on puisse faire du bien à ceux qui veulent nous faire du mal. C'est ça la différence. Quand tu apprends que tu es critiqué, quand tu apprends que tu es diminué, quelle est ta réaction? Ta réaction doit être, effectivement, je ne suis qu'un petit, à Dieu seul est glorieux. Dieu seul est grand. Voilà ce que doit être notre réaction. Quand on apprend qu'on est malmené, critiqué, faussement accusé, on doit dire, je suis qu'un homme, je mérite qu'on m'accuse comme ça, mais Dieu ne mérite pas qu'on l'accuse. Et puisque Dieu ne le mérite pas, il prouvera, puisque je suis son serviteur, Dieu montrera que j'ai raison. Je n'ai pas moi à gigoter pour prouver que j'ai raison. J'ai tout simplement à avoir foi en Dieu. Il est tout puissant. Il sait comment il s'y prendra pour montrer ma raison. Mais qu'est-ce qu'il me demande à moi de réagir selon sa nature? Il me demande à moi de manifester l'amour. C'est en manifestant l'amour. Dans Jean 13, 34, Jésus a dit, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes de moi. C'est comme cela. Les miracles, les satanistes le font. Les malédictions, comme aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des spécialistes de malédiction. Au lieu d'être des spécialistes de bénédiction, ils sont devenus des spécialistes de malédiction. Mais les malédictions, les satanistes aussi, en envoient. Mais l'amour, les satanistes ne sont pas capables. Je lisais un témoignage d'un ex-sorcier américain. Il dit, l'une des grandes faiblesses de Satan, c'est qu'il ne peut pas prévoir les sentiments humains du genre l'amour. Il ne peut pas calculer ça à l'avance parce que lui n'a pas ça. Vous savez, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne l'as pas, tu ne peux pas bien analyser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer en étudiant certains comportements parce que nous-mêmes, on est passé par là. Parce que, par exemple, quand on parle des jeunes de 18 ans, de 17 ans, quand on parle de leur comportement, parce qu'on sait, on est passé par là, on a vécu les mêmes choses. Donc, on peut parler de cela. Mais Satan ne peut pas imaginer c'est quoi l'amour parce qu'il ne l'a pas. C'est ça sa grosse difficulté. Et donc parfois, il y a des gens qui atteignent un haut niveau de satanisme Et ils sont rattrapés par Dieu parce qu'ils avaient gardé un peu d'amour pour leur fille, un peu d'amour pour leur mari. Et rien que cet amour-là a créé un pont qui a, entre cette personne et Dieu, qui a déstabilisé complètement les plans du diable. Et il est dépassé parce qu'il n'a pas ces choses-là. Et le Seigneur nous dit, vous marquerez le fait que vous êtes de moi, que vous êtes dans la vérité, par l'amour. Parce que c'est la chose que les forces des ténèbres n'ont pas. Et nous, on veut à tout prix les miracles, on veut à tout prix que les autres soient frappés, on veut à tout prix que les autres deviennent pauvres pour prouver qu'ils sont en tort, pour prouver qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et Dieu dit, mais non, mais il y a des pauvres aussi qui sont, des gens qui sont dans la vérité, qui sont dans la pauvreté. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. L'apôtre Paul a passé beaucoup de son temps de vie sur terre en prison. Est-ce qu'il n'était pas dans la vérité? Il était dans la vérité. Jésus a été crucifié à la croix. Est-ce qu'il n'était pas dans la vérité? Il était dans la vérité. Donc ce ne sont pas ces moyens-là que nous devons rechercher pour prouver qu'on a raison. Que les gens soient frappés, que les gens deviennent pauvres, que leurs enfants ne réussissent pas à l'école, tout ça. Ce n'est pas bon ça. Ça ne doit pas être notre nature. Au contraire, nous devons souhaiter que les méchants prospèrent. Qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Parce que leur lampe, Proverbe 24 nous a dit, leur lampe s'éteint. Et nous, on n'y peut rien. Du moment que tu es méchant, en toi, il y a une semence de mort. Le mal, en lui, a la mort. Donc, du moment que tu as le mal, tu es en train de mourir. C'est clair. Mais pourquoi nous, chrétiens, on va encore accélérer la mort de ceux qui meurent déjà? Au contraire, nous devons les pousser à la vie. Peut-être qu'ils vont se repentir. Ce n'est pas à nous de chercher la mort, la malédiction des gens. Parce qu'ils sont déjà maudits par le mal qu'ils font. Pourquoi en rajouter? Ce n'est pas notre mission de rajouter le mal chez les gens. Notre mission, c'est de chercher le salut des gens. Notre mission, c'est de montrer que Dieu est bon. Il est amour à travers nous. C'est ça notre mission. Laissons-les prospérer parce que leur lampe s'éteint. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'huile. Laissons-les prospérer. Soyons dans la joie. Il y a des moments où je me dis, mais eux, ils n'ont que ça. Parce que s'ils continuent dans cette voie, après ils iront en enfer. Donc autant qu'ils profitent sur la terre de leurs bêtises. Jésus l'avait, Abraham l'avait dit aux riches dans Luc 16. Il a dit, mais quand toi tu étais sur terre, tu as profité de ta vie. Tu étais riche, tu as fait tout ce que tu voulais, mais Lazare, lui, il a souffert. Voilà, donc aujourd'hui, pendant des milliards d'années, Lazare sera riche. Et toi, pendant des milliards d'années, tu seras pauvre et tu es dans la souffrance. Bien-aimé, il y a des moments où je me dis, mais ces gens-là qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'hypocrisie, mais ils sont déjà dans la mort. Pourquoi rajouter et donner des coups encore sur eux? Il faut au contraire les bénir. Parce qu'ils loupent ce qui est excellent, la vérité. La vérité, c'est la vie. Et quand quelqu'un n'a pas déjà ça, il est dans la mort. Donc nous ne devons pas souhaiter le mal des gens. Nous devons souhaiter que Dieu manifeste lui-même la vérité. Mais entre-temps, quelle est l'autorisation qu'il nous a donnée pour manifester qu'on est de Dieu? C'est l'amour. C'est la paix. Ne résistez pas aux méchants. Parfois, on te déclarera en tort. Dieu dit ne résiste pas. Il y a des moments où il te dira de parler. Mais il y a des moments où il te dira ne résiste pas. Laisse-toi faire comme Jésus s'est laissé faire. Il faut comprendre le système de Dieu. Si on comprend le système de Dieu, on va juste aimer les autres. Juste souhaiter leur bien. Même si ils sont prêts à nous manger vivants, on va souhaiter leur bien. Étienne, pendant qu'il était lapidé, il a dit, Père, ne leur retiens pas. Ne leur retiens pas ce péché. C'est des gens qui avaient compris, bien-aimés. Qui avait compris que notre rôle, c'est la bénédiction. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, les chrétiens souffrent. Ils sont persécutés dans certains pays comme le Vietnam, la Chine, les pays musulmans, l'Arabie Saoudite. Dernièrement, il y a un pasteur qu'on a emprisonné. Non, mais bien aimé, il y en a aussi dont les enfants sont tués devant eux à cause de l'évangile. Tu vas faire quoi? Toi aussi, prendre les armes. Finalement, tu étais devenu chrétien. Pour prouver qu'il y a une autre voie en dehors des armes. Il y a une autre voie en dehors de la haine. Mais aujourd'hui, on tue ton enfant. Tu renies la voie que tu as choisie. Non, tu vas dire, bon, mon enfant est tué. mais je le retrouverai au ciel. Mais moi, je continue la voie de la bonté. Je continue la voie de l'amour. Je continue la voie de la simplicité. C'est la voie que j'ai choisie. Je crois que c'est ça la voie de l'éternité. C'est ça qui subsistera. La haine, la méchanceté, le vol, l'argent mal gagné, toutes ces choses finiront mal un jour. L'injustice, même certains tribunaux sont devenus complices des gens aujourd'hui, des mauvais. Ces tribunaux-là seront confondus un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Dieu montrera clairement qu'il est Dieu. Mais nous, il nous donne le levier suivant, c'est l'amour. Continuez à les bénir, continuez à avoir des bonnes idées pour eux, continuez à prier pour eux, continuez à souhaiter leur changement. Voilà la mission que Dieu nous confie. Et nous allons voir que nous serons bien, parce que nous serons bons comme Dieu. Et quand tu es bon comme Dieu, tu es en paix, tu es tranquille, tu n'es plus dans l'inquiétude. Amen. Vous savez, parfois dans l'évangélisation, certains sont découragés de voir que les gens qui veulent se convertir semblent plus riches, semblent sur deux parfois. Et on se dit, mais comment lui parler de Jésus? Mais bien aimé, dis les mots que le Saint-Esprit te donnera. Ne suis pas les apparences. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens, mais il a fini où? Par la conversion. Il y a des gens qui montrent qu'ils sont troublés en persécutant les prédicateurs, en persécutant les chrétiens. En réalité, c'est la preuve qu'ils sont prêts à changer. Mais ils ne veulent pas, alors ils résistent. Comme Dieu a dit à Paul, arrête de résister. Arrête de regimber sur les aiguillons. Arrête. Tu es déjà touché. Laisse-toi aller. Il y a des gens qui vont résister. Et leur résistance va être manifestée par une sorte d'opposition ou d'indifférence. Il ne faut pas être déstabilisé. Ayons confiance en l'amour de Dieu qui est dans sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu ne sort point, ne revient point à lui sans accomplir ses objectifs. Parlons, laissons le Saint-Esprit parler. Même si les gens semblent froids, distants, riches, forts, parlons et Dieu fera son œuvre. C'est important de croire en Dieu. Vous savez, Dieu manifestera toujours qu'il est Dieu et qu'il manifestera toujours que tu es son serviteur, que tu es à lui. Mais sachez que Dieu veut toucher le cœur. Il y aura des moments où Dieu va faire des exploits. Les gens reconnaîtront, mais ils ne décideront pas pour autant de changer de vie. Ne faisons pas des exploits, des miracles, ou que les gens soient sanctionnés, ne faisons pas ou de la réussite matérielle, ne faisons pas de cela l'arme efficace pour le salut des gens. Ce n'est pas ça. C'est l'amour, la parole de Dieu qui est l'arme efficace. Ces autres choses, Dieu le fera pour attirer l'attention à l'amour et à sa parole. Mais il le fera selon son goût à lui. Ne recherchons pas cela en considérant que c'est ça qui est efficace. Celui qui est efficace, c'est Dieu qui peut aller jusque dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas un miracle. Un miracle, quand il n'atteint pas son objectif, il y a des gens qui ont vu des miracles, ils ont été convaincus, mais ils n'ont pas changé pour autant. Il y a des gens qui ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Pharaon, il a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Il n'avait pas changé. Il a vu ça. Il a fallu jusqu'à la 10e plaie pour qu'il cède. Même en cédant, il n'a pas changé parce qu'il a voulu encore tuer les enfants d'Israël par derrière. Dieu prouvera, ne vous en faites pas, Dieu prouvera qu'on est de lui. Les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 400 ans. Un jour, Dieu a prouvé que c'était eux les plus forts. Ils sont sortis de l'Égypte sans armes. Dieu a démontré sa force. Lorsque l'esprit de mort a frappé tous les premiers-nés des enfants d'Israël n'avaient pas été touchés. Ça a été la preuve qu'ils avaient le Dieu le plus puissant, le Dieu tout puissant. Un jour ou l'autre, Dieu montrera. Mais souvenons-nous, chrétiens, ce que Dieu veut, c'est le cœur de l'homme. Il ne veut pas impressionner pour que toi, tu passes pour un champion. Il veut toucher le cœur de l'homme. Il ne veut pas impressionner pour que toi, tu passes pour le plus grand juste. Il veut montrer que tu es à lui. Donc, comprenez la relation. Ce n'est pas toi que Dieu veut élever, mais c'est lui. Parce que tu es son serviteur, il veut montrer que tu y es à lui. Donc en te touchant, c'est lui qu'on touche. Donc il se défendra en te justifiant clairement. Mais sache que même s'il te justifie clairement, ce n'est pas tout le monde qui acceptera, même si dans le cœur ils reconnaîtront, mais Dieu a atteint son objectif. Dans leur cœur, ils ont reconnu que tu étais à Dieu. Même si de la bouche ils vont dire autre chose, le cœur reconnaît, parce que le cœur a vu. Bien-aimé, le plus grand exploit de Dieu, c'est quoi? C'est amener celui qui s'oppose à toi. Amener le protagoniste, c'est-à-dire celui qui participe à confirmer ta situation de fausseté, amener ces gens-là à reconnaître que tu es de lui. C'est ça son plus grand exploit. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, par exemple, au travail, il y a le patron qui t'a humilié en public, et nous voulons qu'un jour aussi en public, tu fasses comme ça, il tombe de crise cardiaque. Voilà, donc tout le monde a vu. Voilà. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu va faire qu'un jour, le patron viendra dans ton bureau dire, je te demande pardon, je reconnais que tu es de Dieu. Je m'étais trompé. Même si ce n'est pas en public, l'essentiel est que lui, son cœur, est touché. Il fera en sorte qu'il reconnaisse. C'est ça la grande puissance de Dieu. Donc il va même pas parfois toucher les gens des alentours. C'est la personne même qui s'opposait directement à toi qui va reconnaître. Vous savez, quand Jésus-Christ délivrait les gens, c'est les démons qui parlaient. Il disait, fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu chercher contre nous avant le temps? Alors que les humains ne croyaient pas qu'il était fils de Dieu, les démons, ses pires ennemis, croyaient qu'il était fils de Dieu. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que nous devons viser, parce que si nous connaissons la volonté de Dieu, mais c'est ce qu'on doit viser. Ne visons pas une justification spectaculaire qui ferait de nous un champion et on marcherait fièrement. Non, visons la grande puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu, c'est quoi? C'est que le cœur de celui qui s'oppose à toi reconnaisse. C'est ça. C'est lui-même. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que la personne qui devait le juger, on amène Jésus à Pilate pour confirmer qu'il est mauvais, qu'il est malhonnête, qu'il doit être mis à mort. C'est le juge lui-même qui dit, mais il n'a rien fait de mal. C'est ça la grande puissance de Dieu. Donc la personne vers qui on t'amène pour te crucifier, c'est cette personne-là qui dit, mais non, mais il n'a rien fait de mal. Le protagoniste lui-même reconnaît cela. C'est ça la réalité. On va lire Apocalypse au chapitre 3. La Bible dit ceci, au verset 8. On peut commencer avec, au verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Il dit que tu parais faible, tu as peu de puissance, tu parais insignifiant, mais moi je suis avec toi. Alors tu te plains peut-être, tu te dis, mais je n'ai pas de puissance. Dieu dit, mais puisque tu as gardé ma parole, tu es fidèle à ma parole, je ferai que ceux qui se croient supérieurs à toi viennent se prosterner devant toi et reconnaître que tu t'es aimé. C'est ça le système de Dieu. C'est le niveau extraordinaire, le niveau de l'exploit. C'est faire que celui-même qui s'oppose à toi directement, dans son cœur, j'insiste bien, dans son cœur, reconnaisse qu'il a tort, reconnaissent que tu as raison et viennent jusqu'à le dire à toi-même. C'est ça la puissance de Dieu. Peut-être qu'il ne viendra pas en face de toi comme ça, mais tu vas apprendre qu'il a dit que c'est toi qui as raison. Tu vas apprendre qu'il a dit que c'est toi qui es dans la vérité. Il va le reconnaître. C'est ça la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous devons viser. Nous ne devons pas viser que les gens soient frappés. Nous ne devons pas viser que Dieu nous fasse des miracles pour prouver qu'on est. Non, on doit faire en sorte que celui-même, on doit prier de sorte que celui-même qui est dans l'opposition, dans la persécution, ce soit lui-même qui vienne reconnaître que c'est toi qui as raison. Ou alors, pas forcément directement devant nous, que son cœur soit reconnaisse cela. Parce que c'est ce que Dieu fait, c'est ce qu'il nous promet. Il dit, ceux de la synagogue de Satan, je ferai qu'ils viennent reconnaître. Ils reconnaîtront. Ça ne se suivra pas forcément de changement, mais ils reconnaîtront. Leur cœur seront touchés pour reconnaître que tu es de Dieu. On en connaît, bien-aimés. Moi, je me souviens quand on était... les chrétiens canards boiteux touristes, eh bien, les chrétiens véritables nous énervaient. Et un jour qu'on était entre chrétiens touristes, il y a un qui dit, ben, quand je ferai mon entreprise, je mettrai un tel comptable. Alors on s'attendait à ce que ce soit l'un d'entre nous qui soit le comptable, non? Il a désigné un chrétien sérieux. Donc c'est là que j'ai compris que même quand on conteste des gens en disant « Mais lui, avant même de boire le jus, il veut prier. Attends. » Donc il y a des gens comme ça qui vont contester, qui vont dire « Mais non, 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 tu exagères. » Mais le jour où ils chercheront quelque chose de stable et de sérieux, ils viendront vers toi. Il y a des gens même dans des discussions. On va parler, on va se fatiguer, mais quelqu'un dans sa chambre, il va recevoir clairement que tu es de Dieu. Il y a des gens qui viendront te dire, mais j'avais de mauvaises pensées sur toi, mais j'ai fait un rêve, Dieu m'a montré que tu es à lui. Et ils reconnaissent. Ça, c'est l'exploit de Dieu. Ne cherchons pas à convaincre les gens. Laissons Dieu le faire. Il est tout puissant. Nous, le levier que nous avons, c'est le levier de l'amour, de la paix, de la joie. Même dans nos différends entre nous, ne cherchons pas à nous imposer. Laissons Dieu imposer la vérité aux uns et aux autres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 15 à 16, il dit au point où nous en sommes, marchons quand même ensemble. Et si on n'est pas d'accord sur certains points, le Saint-Esprit nous convaincra, convaincra chacun. Faisons confiance en Dieu pour convaincre chacun. Ne cherchons pas à nous imposer. Faisons confiance en Dieu pour sauver les âmes perdues. Ne cherchons pas à nous imposer. Dieu les aime plus que nous, nous les aimons. Dieu va les toucher. Où que nous soyons, au travail, dans un quartier, où que nous soyons, manifestons l'amour et laissons Dieu toucher les gens. Vous savez, à la croix, dans Luc 23, à la croix, on s'est moqué de Jésus. À la croix, on injuriait Jésus. Mais quand Jésus est mort, il a dit, Père, je m'en vais vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre, des choses ont bougé. Les ténèbres ont rempli la terre. Et l'officier qui avait amené Jésus-Christ à être crucifié, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Dieu a touché son cœur. Est-ce que c'était en public? Est-ce que c'était un spectacle public où Jésus sortait triomphant? Non. Dans le public, Dieu parlait à chaque cœur à travers les événements. C'est ce que nous devons rechercher. Nous ne devons pas chercher une sorte de justification où nous sortons triomphant et on nous applaudit. Non, 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 non. Recherchons que les cœurs reconnaissent la vérité. C'est tout. Soyons sûrs que Dieu fera ce travail-là. Il est tout puissant. Restons bons, bien-aimés. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimés, est-ce qu'il est parti dire à gauche, à droite, est-ce qu'il est apparu à Pilate pour dire « Ah, 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 je suis ressuscité » Est-ce qu'il est apparu aux pharisiens pour dire « Ah, 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 je suis ressuscité » Non. À quoi ça sert de vouloir paraître le plus fort Ce n'est pas la nature de notre maître. Il est ressuscité en intimité avec ses disciples, avec ceux qui croient vraiment en lui. Il a partagé la résurrection avec eux. Et il savait que à travers eux, les gens verront que lui, il est ressuscité. Il est vivant. Bien-aimé, à travers nous, les gens voient que Jésus est vivant. Vous imaginez la plus grande église au monde, c'est en Corée. Des Coréens. Louez l'Éternel. Là où il y a le plus grand nombre de conversions dans les pays musulmans, vous savez c'est où? C'est en Iran. Là où c'est le plus dur, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de conversions. On a beau tuer, on a beau emprisonner, les gens disent, moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Alléluia. Parce que c'est, et Dieu savait que c'est comme ça qu'on le reconnaîtra plus que dans une sorte de défi, dire je suis ressuscité. Non. C'est le travail qu'il fait en nous qui prouvera cela. Un travail d'amour, de force et de puissance. Bien-aimés, respectons la nature de Dieu. Ne cherchons pas à ce que les gens nous reconnaissent. Nous sommes déjà connus de Dieu, c'est suffisant. Ne cherchons pas que notre raison soit démontrée par la chute des mauvais. Non. Notre raison en nous doit être démontrée par notre amour. Maintenant, un jour ou l'autre, Dieu démontrera par un miracle ou par la chute des mauvais. Il le fait, hein. Je ne nie pas qu'il le fait. Il le fait. Mais c'est dans sa sagesse et dans ses temps à lui, dans ses calculs à lui. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous, soyez vainqueurs du mal par le bien. Bien-aimés, restons dans la bonté comme notre Seigneur Jésus. Un jour, au dernier jugement, tout sera clair. On saura, celui-ci est de Dieu, définitivement, éternellement. Celui-ci est du diable, définitivement, éternellement. Tout sera clair. Mais pour le moment, nous manifestons l'amour. C'est ça la différence. C'est ça qui prouve qu'on est de Dieu. Pour le moment, laissons Dieu le côté miracle, à Dieu le côté miracle, le côté frappé, le côté démontré qu'on a raison d'une manière. Laissons lui-même toucher les cœurs. Nous occupons-nous de prier pour ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous maudissent, d'aimer ceux qui nous font du mal. Occupons-nous de cela. C'est ça qui prouve qu'on est de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu aurait fait un miracle extraordinaire qui prouve qu'on est de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous aurait donné l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens basent le fait que Dieu est avec eux en prouvant qu'ils s'enrichissent. Bien-aimés, mais dans ce cas, Dieu est avec Bill Gates, Dieu est avec Michael Jackson, Dieu est avec Madonna, Dieu est avec... Mais non, soyons sérieux. Oh, tous c'est des satanistes. Non! Ce n'est pas l'argent qui va prouver que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le succès dans le ministère qui va prouver que Dieu est avec toi. Il y a des serviteurs authentiques qui sont dans des forêts, en train d'évangéliser des Indiens, en train d'évangéliser des pygmées, des vrais serviteurs. Il y a des gens qui sont morts en mission, mangés par les gens qui étaient partis évangéliser. Des vrais serviteurs, bien-aimés. Mais est-ce que pour autant ils ont eu un succès foudroyant, humain? Non! Dieu connaît. Un jour, tout cela sera visible. Il y a des gens comme le Watchman Nee qui a fait 20 ans en prison. Pendant qu'il faisait 20 ans en prison, tout ce qu'il avait écrit est commencé à circuler dans le monde entier. On avait l'impression qu'il circulait le monde entier alors qu'il était enfermé en prison. Aujourd'hui même qu'il est mort, il y a des ministères qui s'occupent que de publier les livres de Watchman Nee alors qu'il est mort. Il n'a fait qu'un seul livre, mais vous allez voir plus de 15 livres au nom de Watchman Nee. C'est pas lui qui a écrit, on a rassemblé ses prédications. Bien-aimé, Dieu montre qu'il est de lui, même mort. Bien-aimé, aujourd'hui nous lisons Paul. Paul est mort. Nous lisons Paul. Paul a été enfermé combien de fois en prison, mais aujourd'hui nous le lisons. Dieu montre qu'il est de lui. Ce qui est de Dieu demeurera. Mais ce qui est de l'humain, de la chair, ça sera comme des étoiles filantes. Ça sera comme des étoiles filantes. Il y a un dictateur au Turkménistan, Niazov. Il est mort à 66 ans d'une crise cardiaque. Alors qu'il y a des vieux paysans qui meurent à 120 ans, à 115 ans. Lui, le dictateur qui avait tous les meilleurs médecins du monde. Il avait même une statue en centre-ville, dorée, une statue dorée qui tournait en fonction de la position du soleil, donc de sorte que le soleil tape en face toujours, bien-aimé. Une statue construite par les Français en plus. Hein. Donc ça tournait, bien-aimé, mais il est mort à 66 ans. 66 ans. crise cardiaque. Non, cancer ou crise cardiaque, mais est-il que nous savons que ceux qui sont dans les campagnes, meurent à 90 ans, buvant du bon lait et tranquillement sans être dictateur, bien-aimés. Toutes ces choses ne doivent pas être la preuve que Dieu est avec nous, que ce soit l'argent, que ce soit les échecs des autres, que ce soit les miracles, que ce soit un succès humain, ce n'est pas la preuve que Dieu est avec nous. Parce que toutes ces choses, les gens, les agents du diable les ont aussi. La preuve, Dieu le fera dans les cœurs. Quand il fera des miracles, quand il frappera, les gens reconnaîtront que c'est Dieu qui a fait. C'est ça la différence. Et les gens, lorsqu'ils verront l'amour que nous manifestons, ils reconnaîtront que nous sommes de Dieu. Parce qu'on fera la différence. Amen. Imitons le Seigneur Jésus-Christ. Soyons comme lui. Soyons comme lui. Il n'a pas fait la pub de sa résurrection pour dire « J'avais raison !» Non. Il a laissé les disciples le dire à sa place. Soyons comme Jésus. Il a accepté d'être crucifié alors qu'il avait raison. Mais on l'a crucifié à tort. Il n'a pas répondu. Comme un agneau. Muet. Ressemblons au Seigneur Jésus. Soyons des gens qui prions, plutôt des gens qui palabrons pour prouver qu'on a raison. Prions. Remettons les gens qui s'opposent entre les mains de Dieu. Remettons les gens que nous voulons évangéliser entre les mains de Dieu. Ne cherchons pas à convaincre par des miracles, mais laissons Dieu convaincre dans les cœurs par le moyen qu'il a choisi. Nous manifestons l'amour. Voilà ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Ne cherchons pas à convaincre les chrétiens autour de nous. Laissons Dieu leur parler dans le cœur. Dieu justifie toujours ses serviteurs. Quel que soit le cas, il ne les justifie pas pour leur gloire, il les justifie parce que ce sont ses serviteurs. C'est comme ses prolongements. Donc, calomnier sur eux, c'est calomnier sur Dieu parce que c'est lui qui est en train de les utiliser. Et donc, il finira par se justifier lui-même pour dire, non, dans cet homme-là, c'est moi qui agis. C'est pas lui, c'est moi. Donc, ne cherchons pas à convaincre. Restons dans la vérité et aimons. Encaissons les coups et prions pour ceux qui nous font du mal. Et Dieu va manifester sa vérité, sa puissance rapidement. Comme c'est écrit dans Luc 18, soudainement. Amen. Nous allons prier.